Comment trouver des clients? Comment bien gérer sa facturation? Ces réponses et bien plus sont dans le podcast des indépendants sur BFM Business. Et j'oubliais, quelle banque choisir quand on devient freelance, auto-entrepreneur ou indépendant? Une vraie banque digitale avec des conseillers experts basés en France. Une banque avec des tarifs compétitifs qui propose toutes les solutions pour développer votre activité. Une banque avec 90% de clients satisfaits. C'est Hello Bank Pro. Hello Bank Pro, partenaire du podcast des indépendants. A tout de suite.
Good morning business, l'expert.
Notre expert ce matin, c'est Frédéric Farah, économiste, enseignant chercheur affilié au laboratoire phare de l'Université Paris-Sorbonne. On va parler de l'euro-dollar, hein, ce dollar fort qui, toutes les conséquences que ça aura pour nous. J'en profite pour vous donner une information qui vient de tomber. La balance commerciale de la France, à moins 12 milliards. On était à moins 10 au mois de février, moins 12 en mars. J'ose pas faire 12 fois 12, ça fait 144. Ce qui est sûr, c'est qu'on va sans doute sur une balance commerciale déficitaire de plus de 100 milliards d'euros cette année. C'est une explication, c'est le dollar fort, puisqu'on a beaucoup de nos importations, notamment en énergie, qu'on paye en dollars.
Oui, alors c'est la question du rapport entre dollar et l'euro est essentielle. Alors pas simplement pour la France, mais évidemment vous évoquiez la question du pétrole en dollars. Et quand le dollar s'apprécie, c'est toujours la crainte. On l'avait vu dans les années 70 avec les chocs pétroliers, ce qu'on appelle le troisième choc, c'est-à-dire le fait qu'il viendrait par le canal monétaire, parce que le dollar deviendrait fort. On l'avait vu donc dans les années 70, quand à la fin des années 70, le dollar s'était aussi considérablement apprécié du fait de changements de politique monétaire à l'époque de Paul Volcker. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, on est dans une situation pareille? Donc, ce qui est intéressant, si vous voulez, d'observer, c'est qu'aujourd'hui, la BCE se retrouve face à une série de problèmes. Donc, le premier, on voit le retour de l'inflation, hein, qu'on n'avait pas vu à ces niveaux-là depuis, évidemment, presque quatre décennies. Et maintenant, autre élément qui va se poser et qui est lié pour les décisions que va prendre la BCE, c'est-à-dire le rapport entre le dollar et l'euro. Donc, depuis le début de l'année, l'euro par rapport au dollar a dévissé de 7% et l'année dernière de 13%. Donc, est-ce que c'est un problème? Et là, on va se retrouver dans des dilemmes de politique monétaire très intéressants. C'est-à-dire, comment faire en sorte de tenir deux choses à la fois, un objectif externe et un objectif interne. C'est-à-dire l'objectif externe, c'est-à-dire de faire en sorte que peut-être nos importations ne renchérissent pas. Mais si le dollar, si l'euro baisse par rapport au dollar, ça peut être aussi intéressant par rapport à notre compétitivité. Et si on veut faire remonter, évidemment, l'euro, ça va peut-être inciter la BCE à relever ses taux d'intérêt. Mais si elle relève ses taux d'intérêt, alors là, ça va nuire à l'objectif interne, c'est-à-dire la croissance et l'emploi.
Donc, mais ça va peut-être permettre de lutter contre l'inflation.
Ça va peut-être permettre de lutter contre l'inflation. Donc on retrouve, si vous voulez, ces grands dilemmes de politique économique, c'est ça pourquoi c'est intéressant d'observer, comment tenir ensemble quatre trucs qui ne vont pas ensemble, c'est-à-dire croissance, plein emploi, stabilité des prix, équilibre extérieur. Donc quatre choses, deux couples qui marchent et deux couples qui ne marchent pas ensemble. Les couples qui vont ensemble, normalement, c'est croissance, plein emploi. Parce que quand il y a croissance, plein emploi, ça génère un peu plus d'inflation, on le voit aux États-Unis, mais ça menace l'équilibre extérieur. Et de l'autre côté, si on veut contenir l'inflation et veiller à cet équilibre extérieur, le risque, c'est que la croissance et l'emploi en pâtissent derrière. Donc, effectivement, tenir tout ça ensemble n'est pas simple. Et ça pose aussi une question passionnante, la question du change, qui, depuis le début de la création de l'euro, n'a jamais été vraiment posée. Quel est le bon rapport entre le dollar et l'euro? Alors, on était dans un couloir de 1,10, 1,20. Là, on descend 1,4, 1,6, peut-être 1,1. On ne sait pas encore. Mais ce qui est certain, c'est que quel est le bon taux de change de l'euro par rapport au dollar. Et donc ça pose une question passionnante qui est quelle est la bonne politique de taux de change, sachant que le taux de change peut être aussi un instrument pour la compétitivité prix de l'Union européenne.
Nicolas.
Frédéric Farah vient de décrire par le menu le fait qu'on n'y arrivera pas sur tous les fronts. C'est pas avec un seul outil, si vous voulez, que la BCE va réussir à répondre à l'ensemble des sujets qui sont devant elle. Et effectivement, une question se pose avec tous ces mouvements de resserrement de politique monétaire qui ont été engagés par des quantités de banques centrales, plus ou moins grandes. Enfin là, maintenant, ça y est, la Réserve fédérale américaine a appuyé sur le bouton à hauteur de 50 points de base, et probablement 50 points de base plusieurs fois d'affilée dans l'année. C'est que finalement, ces choix de politique monétaire actuellement sont motivés par quoi? Ils sont motivés par la volonté de lutter contre l'inflation, ou justement la volonté d'avoir une monnaie plus forte. Et on se rend compte que probablement, notamment du côté de la Banque d'Angleterre, si on tire les taux à la hausse, c'est pour d'abord apprécier la monnaie et en appréciant la monnaie, essayer effectivement de faire baisser cette inflation galopante qui est en train de s'installer. La difficulté, et c'est ce qu'expliquent même les membres du comité de politique monétaire de la BCE, alors la BCE, au-delà du fait qu'elle a un seul outil avec quatre objectifs et 19 économies différentes, je ne vous raconte pas le casse-tête absolu, mais on se rend compte que l'arme de la politique monétaire par la hausse de taux a des effets assez limités par rapport à l'inflation que nous connaissons, puisque c'est une inflation à portée. Mmh. Et alors, on pourrait quand même, malgré tout, finalement, se réjouir du fait d'avoir un euro faible, parce que je ne sais pas quel est le bon prix euro-dollar, mais effectivement, c'est plus 1,15, 1,20 que 1,05. Le problème, c'est que là, comme encore une fois, c'est de l'inflation à portée, eh ben, le fait d'avoir un euro faible, c'est très très bien pour doper votre compétitivité et vos exportations, mais encore faut-il produire. Et lorsque vous êtes dans un choc de production, vous n'avez plus de métal pour produire, vous n'avez plus de matières premières pour produire, vous n'avez plus de matières premières agricoles alimentaires, eh ben, vous vous retrouvez avec l'impossibilité de produire, donc avoir une monnaie faible quand vous n'avez pas de produits à vendre, ça devient très compliqué. Volkswagen qui a décidé de geler les commandes. Ben, le fait d'avoir un euro faible, si Volkswagen gèle les commandes, ça veut dire qu'ils ne vendent plus de voitures. Et s'ils ne vendent plus de voitures, le niveau de la monnaie sur la compétitivité, l'effet est quand même relativement nul.
Oui, donc j'aimerais pas être gouverneur.
Non, et puis surtout pas à la BCE.
Non. Ben, en ce moment, hein, la BCE, c'est vraiment le grand casse-tête, parce que chaque jour s'ajoutent parfois des mauvaises nouvelles, même si vous voyez, par exemple, le taux de chômage en zone euro est vraiment faible. Hein. Les derniers chiffres qui sont tombés sur le taux de chômage en zone euro...
Ouais, le paradoxe qu'on a souligné tout à l'heure avec Nicolas Dos, Jean-Marc Niel, dont vous allez parler dans quelques instants sur les experts.
Pourquoi tant d'emplois avec si peu de croissance?
Exactement.
Exactement, c'est ça qui est très intéressant.